Bonjour Pierre.
Bonjour Merlin.
Et bienvenue.
Merci.
Et donc, on ne te présente plus sur ces utopiales. Tu as écrit une immense quantité de romans maintenant. Peut-être que si on prenait une minute sur chacun, on n'aurait pas fini avant la fin.
Oui, bonne chance. Je crois que j'en ai calculé, je suis à 53.
53 romans.
Ouais.
Donc plusieurs cycles. Et donc tout ça, toute l'aventure a commencé aux alentours de, c'était 1990, 92, Les Guerriers du Silence.
Alors c'est tu parles de la publication des Guerriers du Silence qui est en mars 93, mais qui a été écrit beaucoup plus tôt parce qu'il a été écrit en 1985. Et précisément dans le Gers, un endroit idéal pour écrire l'espèce opéra. Donc j'ai pris 6 mois pour écrire le premier tome sur un cahier, parce qu'à l'époque l'informatique n'était pas très, très développée. Et que j'étais à l'aise avec le crayon, mais pas du tout avec le clavier, donc je n'ai même pas utilisé la machine à écrire. J'ai écrit tout aventure sur un cahier, qui d'ailleurs est disponible à la Bibliothèque nationale de France pour ceux qui s'intéresseraient, donc sans lui me récupérer mon manuscrit original. Et pendant 6 mois, j'ai écrit et j'ai pas trop besoin d'argent à ce moment-là, et je suis allé jusqu'au bout du premier tome. Et à la fin du premier tome, je me dis, mais ça s'arrête pas. Et donc, j'avais plus d'argent, il fallait que je retravaille de nouveau. Et entre-temps, j'ai découvert le PC d'Amstrad 8256, une sorte de machine redoutable à la fois pour les nerfs et pour la tranquillité d'esprit. Et j'ai retapé tout le texte sur cet ordinateur, qui était la préhistoire des ordinateurs. Et puis j'ai décidé d'envoyer le premier tome aux éditeurs, mais comme je n'avais aucune idée du marché de la science-fiction à l'époque, je n'avais même pas idée que je faisais un livre de science-fiction finalement, je l'ai envoyé à n'importe qui. Donc j'ai envoyé aussi bien au Seuil que chez Gallimard, chez Grasset. Ils m'ont répondu, ils m'ont envoyé une fin de non-recevoir parce qu'ils ne faisaient pas ce genre de choses. Et à l'époque, il y avait très peu de place pour les auteurs de science-fiction français. Et surtout pour des textes volumineux comme ça, parce que les auteurs français étaient confinés dans la collection de Fleuve Noir, en anticipation. Et il y avait un formatage très précis, très rigoureux, qui était de 188 pages, pas une de plus. Et que donc le manuscrit ne correspondait à rien de ce qui se faisait à l'époque. Donc j'ai envoyé, j'ai reçu une quantité assez impressionnante de refus. À la fois des éditeurs de science-fiction et des éditeurs, évidemment, de littérature générale. Et le temps a passé, j'ai retravaillé. De fil en aiguille, je suis devenu journaliste, j'ai travaillé sur les Champs-Élysées. Et il y avait le Virgin Megastore en face, et je suis allé au Virgin et j'ai vu le livre de l'Atalante. Et en gros, ils avaient un auteur que j'adore, c'est Orson Scott Card, qui était traduit de l'anglais par Patrick Couton, je ne sais pas si Patrick est là. Il n'est pas là, c'est le personnage incontournable de mon histoire. Et Patrick Couton, je le connaissais, en fait, c'était mon professeur de musique quand j'étais étudiant. Et donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, j'ai vu que tu travaillais comme traducteur pour une émission qui fait de la science-fiction et de beaux livres, la Talente. Est-ce que tu crois que je peux envoyer j'ai un manuscrit à fourguer. Est-ce que tu crois que tu peux m'aider à fourguer ce manuscrit? Et il m'a dit, envoie-le, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que 3 semaines après, j'ai reçu un coup de fil de Pierre Bichot me disant, allô Pierre Bordage, j'ai vu Les Guerriers du Silence, c'est bourré de défauts. Ouais.
Et puis il commence à me faire toute la liste des défauts, de ce qu'il faudrait éviter, de ce qu'il faudrait améliorer, etc. Puis moi, je n'y tenais plus. Au bout d'un moment, je lui dis, mais vous voulez quoi exactement? Pourquoi vous m'appelez? Il dit, mais je veux publier. Non seulement je veux publier le premier tome, mais je veux le signer pour. Parce que bien entendu, vous avez prévu une trilogie, je dis bien entendu. Et je ne l'avais pas vu, mais je ne savais pas que j'allais faire une trilogie, mais oui, je vais faire une trilogie, sans problème. Et tome 2, tome 3, je vous signe un contrat pour le tome 2, le tome 3, etc. Et donc c'est comme ça qu'a commencé l'aventure des Guerriers du Silence. Et je lui dis d'accord, mais à une condition, c'est que je le réécrive entièrement parce que je trouvais qu'il avait vieilli, il avait 8 ans le texte. Et je ne voyais que des défauts moi-même. Ceux indiqués par Pierre Michaud et ceux que je voyais, ça faisait beaucoup de défauts pour un texte. Et il dit, je vais le réécrire entièrement. Il me dit, d'accord, pas de problème. Et en plus, sont arrivés c'était à l'ère des ordinateurs débutants, c'est-à-dire les premiers Macintosh. Donc j'ai tout saisi avec disque dur, c'était un truc assez incroyable. Et donc ça l'a arrangé aussi parce qu'il avait le texte sous forme électronique. Voilà. C'est comme ça que ça commence.
très bien. Et donc, il s'agissait de ton premier roman. Est-ce que c'était la première fois que tu touchais à l'écriture?
C'est mon deuxième roman. Le premier roman est un truc, par bonheur pour moi, n'a jamais été publié. Que j'ai écrit en deuxième année de fac, qui était une sorte de roman mi-réaliste, mi-fantastique, que j'avais envoyé chez Gallimard, chez Grasset, enfin, le mec qui ne doute de rien, quoi. Et j'ai reçu des réponses assez circonstanciées, on va dire. Mais une réponse de Grasset qui m'avait beaucoup intéressé, parce qu'il me disait... Il m'a fait une vraie critique du roman, ce qui prouvait leur intérêt, mais c'est ce que j'ai décodé plus tard, parce que je ne savais pas du tout décoder les réponses des éditeurs, parce que l'éditeur a des réponses plus ou moins graduées, donc il faut apprendre à les décoder. Vous avez la réponse où vous avez votre nom écrit au crayon rajouté, en disant que ça n'intéresse pas les collections, et ça veut dire que c'est vraiment aucun intérêt. Puis vous avez des réponses un peu plus personnalisées. Et là, Grasset m'avait vraiment fait une réponse personnalisée en disant voilà, il y a une partie du livre qui nous intéresse beaucoup, c'est la vie quotidienne du héros. En revanche, tout ce qui est imaginaire, ça ne nous intéresse absolument pas. Comme par hasard. Et donc, voilà, et j'ai abandonné l'idée. J'avais écrit ce roman en deuxième année de fac, comme ça, j'étais pion et je surveillais en même temps les gamins et tout ça. Je surveillais mal ce roman d'ailleurs. Après, il a fallu que je travaille et tout ça, et donc ça, l'envie d'écrire m'a repris en 1985, là j'avais 30 ans, où j'ai eu cette envie d'écrire plus forte que moi quasiment, il fallait que ça sorte. Et donc j'ai pris le crayon, le cahier, et ça. Donc, c'était mon premier roman vraiment élaboré, c'est Les Guerres du Silence.
Et tu saurais identifier cette pulsion d'où elle est venue, justement. Tu parlais d'Orson Scott Card et tu avais lu...
La pulsion d'écriture, c'est étrange parce que je l'ai eu quand j'étais tout petit en primaire. J'étais dans une école dans mon petit village où la sœur, parce que j'étais à l'école des sœurs, c'était la bonne mère, me donnait des rédactions à faire toutes les semaines, me racontait des histoires. Et elle lisait la meilleure histoire de la semaine, celle qu'elle trouvait la meilleure histoire de la semaine. Et c'était souvent les miennes, donc j'avais ce plaisir déjà de raconter des histoires et d'utiliser la langue pour raconter des histoires. Ça, j'ai toujours eu ce plaisir-là en moi. Mais je l'ai perdu dans le cursus scolaire parce que l'écriture devient analytique à partir de la sixième, quasiment de la cinquième. Et donc j'avais perdu ce plaisir de raconter parce qu'il n'y avait plus, de possibilité de raconter. Il fallait analyser. Moi, ça ne m'intéresse pas d'analyser. Donc j'ai perdu le plaisir de l'écriture, mais le plaisir de l'écriture m'est revenu en première année d'université dans un atelier de création littéraire où on avait un prof complètement barré, mais vraiment, des profs comme ça c'est assez incroyable, qui nous dit « moi je me fous totalement de ce que vous écrivez ». Il s'appelait Monsieur Defoy, et je lui rends hommage aujourd'hui. Il dit « je me fous de ce que vous écrivez, moi je veux que vous narcissiez des pages et des pages, et je vous note au nombre de pages ». Donc si vous répétez le même mot à l'infini sur 10 pages, ça fait rien, ça fait 20 points. C'est 2 points la page. Donc, il y a des gens qui faisaient ça. Je me souviens, il y avait un poète dans le cours qui faisait des trous dans une page, qui mettait trou et ça faisait 2 pages. Donc il y avait tout un tas de trucs comme ça, c'est marrant. Mais en fait, ce principe-là de noircir des pages, ça développe un truc qui s'appelle l'écriture automatique et qui fait sauter un bouchon, qui est le bouchon scolaire, souvent un peu pesant sur l'écriture. Et du coup, l'écriture a recommencé à couler, quoi. Et j'ai retrouvé ce plaisir du jaillissement spontané de l'écriture qui a fait que j'ai redécouvert le plaisir de l'écriture, tout simplement. Et d'où j'ai fait mon deuxième roman, mon premier roman par la suite, en deuxième année de fac, etc. Et ça ne m'a plus quitté après. Et ça a ressurgi à l'âge de mes 30 ans où vraiment c'était plus fort que moi. Il fallait vraiment que je sorte ce que j'avais à l'intérieur. Et je ne sais pas l'expliquer, hein. C'est juste, j'appelle ça un jaillissement de source, c'était vraiment ça, c'était le jaillissement de la source qui de nouveau grondait et voulait sortir.
La source, tu en parles justement dans Les Guerres du Silence, est-ce qu'il y a un rapport?
Il y a un rapport avec tout, je suppose, mais après je ne sais pas d'où vient cette... parce que... La question qui se pose quand on fait des romans, c'est la légitimité. Quelle légitimité on a pour raconter des histoires aux gens? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de nos histoires? Est-ce que c'est important finalement? Qu'est-ce que ça apporte au monde? Et je crois que si on n'a pas cette espèce de jaillissement spontané qui vient de je ne sais où, on n'écrit pas tout simplement parce qu'on n'a pas cette énergie qui pousse à raconter une histoire. Parce que ce qui guette, je pense, l'apprenti auteur, c'est le découragement.
On se dit, mais qu'est-ce que je fous dans cette histoire-là? Qui ça va intéresser finalement? Et si on n'est pas poussé par cette espèce de volonté, enfin, de puissance intérieure finalement, qui encore une fois est totalement mystérieuse, qui a certainement à voir avec le souffle primordial, j'en sais rien, le verbe s'est fait chair et tout ce truc-là, si on n'a pas cette espèce de puissance intérieure, je pense qu'on s'arrête. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, mais j'ai commencé un roman, mais je dis, allez jusqu'au bout. C'est la seule façon de savoir si on peut se frotter à l'écriture, c'est d'aller jusqu'au bout d'un projet. Si vous n'allez pas jusqu'au bout, ça ne sert à rien, finalement. Voilà. Et j'ai fait comme ça plusieurs petits bouts d'histoire que je n'ai jamais fini. Et puis, à 30 ans, là, je suis vraiment allé au fond, à fond sur le projet, et je suis allé au bout du projet.
D'accord. Tous ceux qui te connaissent m'appuieront là-dessus. Moi, je t'ai rencontré il y a quelques années. Alors, je n'ai pas connu l'avant Pierre Bordage, mais il est évident que tu as marqué la science-fiction française très amplement avec, au point de devenir justement directeur au moment des Utopiales. Tu es présent sur le Festival de l'Imaginaire et il y a une immense humanité qui sort de toi justement lorsqu'on te connaît, un apaisement et qui va être présent jusque dans ta littérature. Et on va trouver justement ce côté humain de parfois qui va jusqu'à l'utilisation d'idées, de développement, de philosophie, de choses comme ça, qui dépasse très largement l'aspect parfois imaginaire de l'œuvre. Justement, et tu as été toi-même très marqué par les croyances et par le développement à la fois religieux et pas du tout. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, j'ai toujours été passionné quand j'étais môme par les mythologies qui me semblaient être des sortes de boutons sur lesquels on appuyait pour explorer l'âme humaine dans tous ses états finalement, tous les grands. Les grandes émotions, les grands sentiments se retrouvent dans la mythologie. Donc j'ai toujours été un fervent lecteur de mythologie. Puis j'ai eu des élans mystiques quand j'étais petit, où je percevais une sorte de monde différent sur lequel je ne pouvais pas trouver de mots, et j'en avais parlé à mes parents et ils m'ont dit il faut faire le séminaire. Mauvaise réponse. Mais bon, j'ai fait 4 ans. Et pendant 4 ans, on s'est ingénié, enfin les prêtres qui étaient les professeurs se sont ingéniés à briser cette aspiration spirituelle parce que ça ne les intéresse pas du tout d'avoir des gens libres d'esprit et adeptes d'une spiritualité libre, mais ce qu'ils veulent c'est des soldats de la foi. Donc ce qu'ils font c'est qu'ils essaient de formater des gens, et moi de formatage ne me convenait absolument pas, ça me faisait même énormément souffrir finalement parce que ça ne correspondait pas du tout à ce que je vivais profondément, à ce que j'expérimentais. Donc quand je suis sorti du séminaire, j'ai rejeté en vrac les religions et tous ces trucs-là en disant tout ça c'est vraiment n'importe quoi, ce n'est pas la réponse que j'attends. Et donc ce que j'ai un peu vécu ma période anarcho, matérialo, socialo, enfin tout ce qu'on veut. Et en fait, c'est un voyage en Inde qui m'a reconnecté à ce que je ressentais quand j'étais enfant, c'est-à-dire que j'ai ressenti dans le pays l'Inde, dans l'atmosphère indienne, cette espèce d'aspiration à la spiritualité qui ne m'avait jamais quitté dans le fond. Et donc, une grosse partie de mon travail, ça a été d'explorer ces chemins de la spiritualité. Et donc, j'ai pris le biais de l'imaginaire pour ça. Mais ce ne sont que des prétextes, finalement, l'imaginaire. C'était pour explorer les sentiers de la spiritualité libre. C'est-à-dire de nous défaire, le plus possible de tous les conditionnements existants. Il y en a beaucoup. On se rend compte que finalement, il y a le conditionnement religieux, il y a le conditionnement sexuel, il y a le conditionnement de l'âge, il y a le conditionnement du boulot, il y a le conditionnement matériel. Il y a des multiples conditionnements, et je pense que la science-fiction est un outil idéal pour explorer ces conditionnements, essayer de se défaire de ces conditionnements. Et je pense que c'est finalement le propos principal de tous mes livres. À travers tous mes livres, c'est ça, c'est... Peut-on sortir des conditionnements? Peut-on... percevoir le monde ou l'univers d'une autre façon que celle qu'on aperçoit actuellement, celle de la façon dominante de percevoir le monde. Peut-on apporter quelque chose à l'humanité en explorant des sentiers inconnus, des sentiers nouveaux, etc. quoi. Et c'est ce qui a... Pour moi, chaque roman est une longue plongée intégrale dans le grand fleuve humain
je descends au fond de ce fleuve humain, parfois avec des personnages qui sont très douloureux pour moi. Enfin, j'ai des livres qui ont été très douloureux à écrire. Et j'essaie d'aller au fond, de plonger le plus profondément possible pour ramener des choses, comme agripper des choses dans le fond, les remonter à la surface. C'est le boulot d'écrivain, quoi, c'est de remonter des choses à la surface et de dire voilà ce que j'ai trouvé au fond, à vous lecteurs de vous en emparer ou pas. Quoi.
Très bien.
Et ça, c'est vraiment de l'effet.
Oui, ben c'est toujours émouvant en plus de parler avec toi et de te voir développer ces, ces thèmes-là.
On en a déjà parlé.
Oui, oui, tout à fait. Et ben voilà. Et il y, y a un aspect qui est donc très important, c'est donc l'impact que tu as eu sur la science-fiction et sur au point que tu as été même Johan Bergeau, je crois pas long, il n'y a pas longtemps aux éditions de Nemos, qui a même repris, repris ton, ton univers pour continuer à écrire. Et je voulais savoir justement quel était ton, ton regard sur le monde de la science-fiction lorsque tu as produit les enfin lorsque les Guerriers du Silence ont pu sortir. Et aujourd'hui,
oui,
20 ans après,
évolution, ouais.
Quelle, quelle évolution tu as pu voir justement?
Alors, quand les Guerriers du Silence sont sortis, c'était en 93, je n'avais aucune idée du monde de la science-fiction. Aucune idée. Le premier contact que j'ai eu avec la science-fiction, c'est Aïr Dahl qui me l'a proposé, parce qu'il avait organisé une sorte de festival dans son coin à Lyon, et là, c'est là où j'ai rencontré la première fois des auteurs de science-fiction qui étaient là. Et vraiment, j'étais dans une innocence totale par rapport au milieu. Quoi. Je ne savais pas qu'il y avait des querelles, des chapelles, des courants historiques, et des, une histoire, parce que la science-fiction, c'est une longue histoire qui se parle à elle-même en permanence. Et j'ignorais totalement ça. Donc j'ai redécouvert, découvert le monde de la science-fiction peu à peu, en fréquentant des auteurs de science-fiction, en lisant des 12 ouvrages. Enfin, la seule connaissance que j'avais de la science-fiction, ce sont les auteurs de l'âge d'or américain. Que j'avais découvert aussi en première année de fac par un autre professeur bien barjou aussi, parce que pour proposer de la science-fiction en université en lettres modernes, dans les années 70, il fallait déjà avoir un certain courage. Quoi. Et donc pour moi, la science-fiction, c'était les écrivains de l'âge d'or américain, les Asimov, les Herbert, les Van Vogt, etc., les Heinlein, Simak, tous ces gens-là. Et j'avais jamais lu Barjavel, par exemple. Vous avez sauté le maillon français par Javel. D'ailleurs, ça m'a beaucoup amusé quand j'ai écrit Le Feu de Dieu et qu'on m'a dit c'est un bel hommage à Ravage de Barjavel. C'est un bel hommage involontaire, du coup, parce que je n'ai jamais lu Ravage. Quoi. J'ai peu à peu découvert le milieu, découvert l'humanité du milieu dans tous ses états aussi, avec sa bienveillance, sa malveillance, ses jalousies, ses envies, tout. J'ai découvert un petit monde qui, me semblait-il, était un peu fermé sur lui-même par instant. Quoi. Et que moi, mon propos, c'était de m'adresser aux gens, pas à un milieu spécifique. Parce qu'on m'avait dit, oui, alors tu fais de la science-fiction, donc tu vas avoir tel lectorat. Ton lecteur, il va être garçon, il fait des études scientifiques, il est légèrement mal dans sa peau. Voilà, on me dit, c'est ça ton lecteur. Ben non, je n'ai pas cette impression-là. Moi, je vois, quand je vais sur les salons, je vois des gens de tous âges, des deux sexes. Il n'y a pas de différenciation. Voilà. Donc, alors je ne sais pas si j'ai eu un impact sur la science-fiction française, parce que ça, c'est pas moi de le dire. Je pense que l'Atalante a eu un impact sur la science-fiction française parce qu'elle a osé publier des auteurs français en grand format, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque, et qui crédibilisait énormément les écrits de ces auteurs-là. Mais moi, je ne sais pas si j'ai eu un impact, mais moi, mon propos, ça a toujours été de sortir la science-fiction de son ghetto, dans lequel, parfois, elle peut se complaire. Donc, c'était m'adresser au plus large public possible et donner le plus de codes possible aux gens, parce qu'on dit que la science-fiction est une littérature de codes, c'est-à-dire qu'il faut avoir certains codes pour pouvoir entrer dans certains livres. Et moi, en tant qu'auteur, je ne m'estime pas le droit de perdre un lecteur parce que je ne lui ai pas donné les codes. Donc, j'ai fait en sorte d'élargir au maximum le genre, le plus de lecteurs possible, à savoir quand un lecteur venait dans mon bouquin, ouais, mais si j'avais bien fait mon travail, il pouvait y rester. Quoi.
Et quel regard tu pourrais donner aujourd'hui sur la science-fiction que tu as pu découvrir les auteurs passés justement.
Bah après, j'ai effectivement découvert tous les auteurs contemporains, je les ai lus, je les ai rencontrés, on a beaucoup parlé. C'est une famille, et dans toute famille, il y a les bons moments et les moments un peu plus difficiles. Je trouve qu'il y a une vraie richesse de production française actuellement, à la fois dans la fantasy. Dans la fantasy, c'est assez remarquable. Il y a beaucoup de femmes qui arrivent, de jeunes femmes qui ont des textes assez remarquables, mis au vrai, comme ça. Il y a Georges, je présente Georges pour moi. Qui j'ai démoli, moi?
Les clichés. T'as tapé sur le cliché il y a 5 minutes et maintenant tu redonnes dedans.
Pas du tout. Il y a une vraie production de jeunes femmes en fantasy francophone qui est très importante actuellement. Je pense pas que ce soit un cliché. Et en science-fiction, c'est pas un cliché de le dire, c'est une réalité. Il y a beaucoup de textes intéressants. Il y a une vraie sensibilité différente en France par rapport aux États-Unis et tout ça. Il y a une vraie production. Je suis plutôt content de faire partie de ce mouvement-là. Bon, maintenant j'ai une figure, je suis un peu figure d'ancien, mais ouais, je suis très content de voir comment ça se développe, comment les collections sont développées, comment la science-fiction et la fantasy ont vraiment pris leur place, francophone ont vraiment pris leur place sur le marché de l'imaginaire.
Et justement, vis-à-vis de la science-fiction, parce qu'on va voir que dans l'ensemble de ton œuvre, que ce soit sur les 53 romans et on ne compte plus les nouvelles qu'il y a pu avoir, à côté, le space opéra a eu une grande place. Tu as touché également à la fantasy et on a pu apercevoir ensuite des soupçons d'autres genres. Mais il y a un amour justement qui est présent pour la science-fiction et un apport immense pour la science-fiction. Pourquoi ce genre-là en particulier ?
Pourquoi je me suis lancé dans la science-fiction, j'aurais peut-être dû éviter au départ. Pourquoi ce genre-là? Parce que ce genre-là n'a pas du tout la considération culturelle qu'il devrait avoir. Et quel est l'intérêt de ce genre-là? Au début, je ne me suis pas posé la question. Pour moi, c'était évident. J'avais lu Dune, j'avais lu des bouquins comme ça, et je voulais être dans ces univers-là. Je voulais proposer le même rêve, le même dépaysement et la même réflexion que ces univers-là. Et donc quand j'ai écrit Les Guerriers du Silence, pour moi c'était spontanément que j'étais dans le space opéra, dans la science-fiction, parce que, et c'est après que j'ai réfléchi, je me suis dit tiens, pourquoi avoir fait de la science-fiction? Souvent dans les salons, les gens me demandaient, mais pourquoi vous n'écrivez pas des vrais livres? Et bon voilà, non, pourquoi j'ai fait de la science-fiction et pas des vrais livres? Alors donc, du coup, il doit y avoir un intérêt, ou alors, je suis maso, ou bien il y a quelque chose à creuser là-dessus. Et j'ai creusé et je me suis rendu compte que la science-fiction offrait une combinaison de possibles qu'on avait du mal à trouver dans les autres formes de littérature, qui sont, un, le dépaysement justement, c'est-à-dire le merveilleux voyage, tel que proposé par Jules Verne, un voyage extraordinaire. Vous allez décoller du réel, bienvenue dans ce monde un peu différent, saut dans l'espace-temps, donc une étrangeté et un vrai dépaysement. Le paradoxe, et c'est le 2, c'est que ce dépaysement-là, cet effet de loupe, finalement crée un effet de loupe qui ramène au présent. C'est-à-dire que ça nous permet de réfléchir sur le présent par le biais du genre. Et on se rend compte que la plupart des œuvres de science-fiction nous parlent finalement du présent de façon détournée. Donc ça offre une place de réflexion à ce qui se passe dans notre présent. Et puis troisièmement, et ça rejoint à ce que je disais au début, par rapport aux mythologies et autres religions, c'est sa place. Il y a aussi un questionnement philosophique permanent qui sous-tend le genre, qui rejoint les grandes interrogations posées depuis la nuit du temps, enfin depuis que l'humanité est en âge de conscience finalement, et qu'elle se pose des questions sur elle-même. La science-fiction permet, avec un déplacement des connaissances, c'est-à-dire un angle différent, parce que nous savons que nous ne sommes pas le centre de l'univers, mais que la Terre n'est qu'une petite planète sur un bras de la Voie lactée, tout ça, modifie un peu les perspectives, mais le questionnement fondamental reste toujours le même. Donc c'est une littérature philosophique. Donc cette combinaison-là, du dépaysement, réflexion sur le présent et questionnement philosophique, bah, c'est ça qui, je pense, m'a poussé à œuvrer dans ce genre-là. Parce que je pense qu'on aurait du mal à trouver cette combinaison-là dans d'autres genres.
déjà, si vous voulez, la plupart des littératures s'adressent au passé. Dès que ça paraît, ça fait 6 mois que c'est écrit, donc vous parlez du présent qui est déjà passé, quoi. Si vous voulez parler du présent, vous êtes obligé de vous projeter dans le futur. Donc c'est paradoxal, mais c'est le genre qui veut ça.
Très bien. Et alors oui, 20 ans après, ça fait l'objet d'une réédition d'un coup, on va dire.
Ouais, ouais.
C'était l'occasion pour toi de relire le texte. D'ailleurs, tu viens intégrer une.
J'ai pas relu le texte, hein. J'ai simplement rajouté une nouvelle.
Pas forcément revu le texte, mais peut-être là-dessus.
Replongé dans le texte.
Voilà. J'étais curieux, quel est ton regard là-dessus avec 20 ans d'expérience.
J'ai un regard très ému sur l'égalité de silence parce que je vois tous les défauts et entre autres la surabondance d'adjectifs que, paraît-il, sont les regrets de l'écriture. J'ai beaucoup de regrets apparemment, s'il y a beaucoup d'adjectifs. Comme si il y avait cette espèce de volonté qui disparaît déjà dans le tome 2, je pense, dans Terra Mater, de prouver que je savais écrire, que je voulais mettre le maximum de choses d'écriture pour montrer que oui, je savais écrire comme tout le monde et tout ça. Et donc ça m'a probablement poussé à certains excès. Mais je regarde ça avec beaucoup de tendresse quand même, parce que la musique de l'écriture reste la même malgré tout ça. Elle a simplement évolué, mais la musique profonde de l'écriture est là et je l'écoute toujours avec le même plaisir finalement. Et ça a été vraiment un plaisir pour moi de me relancer dans la nouvelle préambule, qui sert de préambule aux 3 tomes, parce que ça m'a permis de me replonger dedans. Et avec ce recul de 20 ans sur l'écriture, ça devenait très intéressant. Parce que...
Tu parles de musique, de l'écriture, justement c'est très intéressant parce que on parlait de Patrick Couton qui a été une personne importante pour toi, qui a été ton professeur de musique.
Ouais.
Justement, tu as même fait, je crois, des enregistrements radiophoniques, si je ne me trompe pas un moment, sur les de certaines œuvres.
Alors, j'ai travaillé un texte qui s'appelle Chronique des ombres, qui est paru en livre, mais qui est d'abord paru sous forme de feuilleton radiophonique. On a enregistré 10 épisodes avec musique et acteurs. Et c'est un projet qui était un peu avant-gardiste et qui n'a pas trouvé son public parce que je pense qu'il s'adressait à des instruments nomades qui n'existaient pas à l'époque. Donc ça a été prévu pour les ordinateurs et les gens n'ont pas envie de se bloquer devant leur ordinateur pour écouter un feuilleton, comme ça se faisait dans le temps dans la radio, le feuilleton radiophonique. Donc ouais, ça c'est un projet. Du coup, mon éditrice de Diable Vauvert m'a dit « Moi, j'adorais ce projet, est-ce que tu peux la transformer en feuilleton littéraire ?» C'est ce que j'ai fait ensuite.
D'accord. Très bien. Et d'autres... Tu as eu d'autres approches un petit peu comme ça qui ont été intrigantes aux alentours de l'écriture ?
J'ai un peu essayé à peu près tout, parce que les éditeurs sont des gens qui proposent beaucoup d'expériences finalement. J'ai travaillé en collaboration avec d'autres auteurs dans la série Quark Noir pour Graine d'Immortel où on avait défini une bible pour les personnages et pour l'univers. J'ai travaillé en novelisation pour le film Kaena, dont j'avais participé au scénario au début. Donc j'avais quitté très tôt et le producteur m'avait dit bah, « si on fait un roman, je m'adresserai à toi ». J'ai travaillé dans un univers de jeux vidéo qui s'appelle Atlantis, où je me suis inspiré de l'univers créé par le concepteur du jeu pour écrire ma propre histoire dans son univers à lui. C'est intéressant, c'est une confrontation de deux imaginaires. J'ai écrit un livre à quatre mains avec Mélanine, qui s'appelle Mission Mother, qui est un livre illustré et un livre enquête. J'ai écrit récemment, j'ai fait l'expérience avec Alain Grousset, sur Gigante, c'est-à-dire c'est un univers qu'on a posé à deux et on a écrit chacun notre histoire dans cet univers, l'un racontant l'histoire du fils et l'autre l'histoire du père, et paradoxalement, puisque c'est de la science-fiction, l'histoire du fils se déroule avant celle du père. Donc voilà, donc, je me suis prêté à pas mal d'expériences d'écriture parce que tout semblait intéressant. La contrainte aussi me paraît intéressante, la contrainte de la nouvelle me paraît intéressante par exemple. Je ne suis pas un novéliste naturel, il faut qu'on m'impose un thème pour puisse aller dans la nouvelle. Donc, par exemple, je fais partie de toutes les anthologies du Festival Imaginal de Fantasy. Et donc, ça m'a obligé à faire des nouvelles de fantasy, qui est un genre que j'ai assez peu abordé finalement. Et d'être provoqué. Voilà. J'adorais aussi de provoquer. J'aime bien partir de mes propres univers, mais j'adorais être provoqué par d'autres univers et essayer de faire quelque chose d'autres univers. Ça m'intéresse.
Très bien. Et donc, parmi toutes ces expériences, justement, qu'est-ce que tu relèverais parmi qui sortiraient du lot les plus beaux moments que tu as pu avoir justement à travers l'écriture, ben, à travers l'édition et la science-fiction?
Souvent on me pose la question de savoir quel est mon roman préféré. Et je dis, c'est comme les enfants, on a du mal à choisir quel est son préféré. Parce que chaque roman est différent, chaque roman est une aventure différente. Il y a des romans qui ont été très jubilatoires, je parle des Fables de l'Impur par exemple, où il y a un jeu sur le langage qui moi me plaisait énormément, et c'est très jubilatoire d'écrire ça. Donc je n'ai pris que du plaisir. Il y a des romans comme Les Griots Célestes qui m'ont coûté, qui étaient très bercés d'une façon ou d'une autre par la mort. Et là, c'était extrêmement douloureux à écrire. C'est pas pour autant qu'un roman est plus récit qu'un autre. Chaque roman propose sa propre aventure. Si je devais retenir quelque chose, ce serait ça. Je pense que dans chaque roman aussi, c'est un travail de construction patient, lent, et on traverse beaucoup de phases, beaucoup d'étapes différentes. Il y a des jours où l'écriture coule vraiment comme une eau de source, c'est très facile, et des jours où on peut passer 3-4 heures sur une phrase, qui est comme une sorte de butée sur laquelle on vient sans arrêt, et on sait que si on ne passe pas cette butée-là, on ne continuera pas dans le texte. Donc il y a tout ça, quoi. Enfin, l'écriture en elle-même, c'est peut-être c'est ça finalement qui me reste de toutes ces années-là d'écriture, c'est que l'écriture est un fil d'Ariane qui nous emmène dans des labyrinthes étranges qu'on ne maîtrise pas. C'est un travail d'inconscient qui se produit. La façon dont je travaille en tout cas, parce que moi je travaille en immersion, c'est-à-dire que je ne fais aucun plan. Sur rien, les gens me disent, oh là là, c'est tellement élaboré votre univers que vous avez dû faire un plan, penser au plan et tout ça. Non, je ne fais aucun plan jamais. Le plan me dessèche, me dessert. Donc moi, je pars avec l'écriture et c'est l'écriture qui m'emmène dans l'organisation du roman. Donc j'essaye en fait de disparaître moi dans l'écriture. C'est pas évident parce qu'on a toujours le petit machin là qui cause là au-dessus de soi, le petit personnage perché sur l'épaule qui est le censeur et à la fois le critique et l'entité qui n'est jamais contente. Et il faut faire confiance à l'écriture. Donc c'est plonger avec l'écriture dans l'univers. J'emploie souvent cette comparaison, c'est que quand je commence un livre, je creuse. Donc comme dans une mine. Et tant que vous êtes près de l'entrée, vous avez la lumière de l'extérieur qui vous guide dans les profondeurs. Puis peu à peu, vous creusez, et à un moment, il n'y a plus de lumière du coup. Il n'y a pas la lumière de l'entrée, il n'y a pas la lumière de la sortie. Vous êtes seul avec votre texte, et là, il y a une angoisse terrible qui se produit en général, parce que qu'est-ce que je suis en train de faire? Où suis-je? Je suis dans le noir total. Et donc, c'est là, il y a un travail de reconfiance à faire dans l'écriture. Et généralement, j'ai cette petite crise-là, moitié, trois quarts du roman, et il faut que je reparte en disant, ben voilà, il faut que je fasse confiance jusqu'au bout à l'écriture. C'est un travail de confiance permanent, d'être confiant dans son écriture, être confiant dans son aventure.
Et que t'apporte personnellement l'écriture, justement?
Ben, une exploration de moi, de moi-même, je pense, déjà. C'est un vaisseau formidable pour justement, là je te parlais de travail de l'inconscient, pour aller voir dans les recoins les plus sombres ou les plus lumineux de l'être. L'écriture, c'est un truc très très fin qui pêche très très finement. D'ailleurs, regardez quand vous commencez une correspondance par l'écriture, vous allez tout de suite beaucoup, très très vite, très très loin. Et ça nous échappe beaucoup. Et donc, l'écriture m'apporte ça, c'est-à-dire une sorte de plongée libre en moi-même. Donc, en ce sens-là, elle est très proche de la forme de spiritualité dont je parlais tout à l'heure, qui est une spiritualité. Entièrement libre et voilà. L'écriture m'enseigne à n'avoir aucune censure sur moi-même.
D'accord. Et justement, et le rôle du lecteur là-dedans, parce que tu as, probablement, tu es un des auteurs français les plus lus, en tout cas dans le monde de la science-fiction, avec je crois plus de 900 000 ouvrages.
Oui, ça doit dépasser le million maintenant.
Voilà, ça doit dépasser le million. Tu as été traduit dans je ne sais plus combien de pays, une dizaine de pays, quelque chose comme ça, peut-être même davantage.
Non, non.
Et justement, avec même d'ailleurs ce côté de feuilleton dont on a parlé rapidement tout à l'heure, mais qui me fait penser que il y a un côté presque Alexandre Dumas dans l'écriture que tu as, c'est-à-dire qu'il y a un côté populaire dans le très beau sens du terme, finalement, d'entretenir et de faire évoluer justement une culture globale vers quelque chose. Quelle est la pensée que tu as pour le lecteur, justement, au fur et à mesure de l'écriture?
En ce qui concerne le lecteur, moi, j'essaie d'être le plus transparent possible. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure que j'étais très attaché à transmettre les codes à n'importe quel lecteur qui ne soit pas habitué au genre, qui passe par une écriture la plus transparente possible, de façon à ce que le lecteur perçoive immédiatement le fond des choses. L'écriture, c'est comme une surface d'eau, c'est une interface. C'est-à-dire que si vous agitez la surface, qui s'appelle faire de la littérature finalement, eh bien le lecteur ne voit pas le fond, il voit que la surface des vagues. C'est-à-dire, oh là c'est joli, ça fait des trucs, ça fait des mouvements, ça fait pas tas de choses. En revanche, vous avez une surface extrêmement lisse et transparente, vous voyez le fond de la mer, le fond des choses. Et c'est ça qui m'intéresse à moi, c'est de donner à voir le fond des choses, c'est-à-dire que l'écriture n'existe pas. Je suis très heureux quand les gens me parlent d'un roman, ils me parlent du fond, ils ne me parlent pas de l'écriture. Ça veut dire qu'ils ont oublié l'écriture, et c'est ça le mon but, c'est qu'on oublie l'écriture. C'est que l'écriture soit au service de l'histoire, soit l'interface parfaite entre le lecteur et l'histoire. Je pense que je travaille... Alors, tout à l'heure, je parlais de style musical en écriture, enfin de musique en écriture. Je cherche à avoir une musique très fluide, sans fausses notes. D'ailleurs, quand je relis, je traque les fausses notes. J'essaie de voir ce qui pourrait perturber l'eau, la surface, et empêcher de voir le fond. Donc, c'est un travail de disparition. C'est très taoïste comme méthode, hein, parce que le Tao dit, une fois l'œuvre accomplie, l'auteur s'efface. Et là, je crois qu'une œuvre est réussie, c'est quand l'auteur s'est effacé dans son œuvre.
Très bien, merci beaucoup. Et alors, est-ce qu'il y aurait des questions ?
Une seule question à la fois.
Une seule question à la fois.
Quand vous avez dit il y a quelques instants que vous vouliez tout mettre dans l'histoire et créer un lien entre le lecteur et l'histoire, uniquement entre le lecteur et l'histoire, j'ai pensé immédiatement à Flaubert qui avait dit qu'on doit faire un livre sur rien, mais il n'y a que du style dans ce livre, presque pas l'histoire. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de projet, de ce genre de littérature ?
J'en pense pas grand-chose, je pense que ça peut être très réussi. J'ai lu des livres de purs stylistes, qui m'ont fait simplement prendre conscience de la qualité du style et que c'était très délicieux de lire des choses comme ça, qui n'avaient pas de fond. Enfin, bien que je pense que tout livre ait un fond finalement. Mais c'est pas mon projet à moi, quoi. Je ne me définis pas comme un styliste de la langue, mais comme un conteur, enfin. Il y a une sorte de différence entre littérateur et conteur, le littérateur étant celui qui joue avec le style, joue avec la langue, et le conteur est celui qui raconte une histoire. Et on est dans des genres, bien qu'il y ait eu une école de science-fiction française qui a essayé de privilégier le style, qui s'appelle l'école limite par exemple dans les années 80, on est quand même dans un genre qui raconte des histoires. Et donc moi j'essaie de me mettre au maximum au service de l'histoire, l'écriture est au service de l'histoire.
Vous disiez tout à l'heure que les mythes, la mythologie est quelque chose qui était peut-être inspirante par la mythologie traditionnelle telle qu'on les connaît. Est-ce que vous avez l'impression, à travers vos travaux, d'avoir réinventé les mythes ? Est-ce qu'il y a des mythes contemporains dans votre travail ?
Je n'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression que c'est une revisitation des mythes, mais que le socle il est là et qu'il n'est pas facilement bougeable. Quoi. C'est-à-dire... J'ai l'impression que tout a été écrit déjà, que les schémas narratifs des mythes mis en place il y a fort longtemps sont les mêmes et qu'on s'en éloigne jamais. Quoi. Je veux dire que je me sens très proche de quelqu'un comme Homère, par exemple. Enfin, je suis sur les traces d'Homère, je suis dans le sillon qu'il a creusé, et ce sillon est tellement énorme que je ne change pas grand-chose. Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que les mythes posent l'interrogation sur l'intérieur humain, finalement, et que cette interrogation-là n'a pas changé. Et ce n'est pas la technologie ou la science qui a changé quelque chose là-dessus, quoi. Ça a changé le point de vue, peut-être. Ça a changé l'extérieur, ça a changé la technologie, ça a changé la vitesse, ça change ce genre de choses extérieures. Mais ça ne change pas le questionnement intérieur. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas encore dépassé les mythes.
Bonjour.
Je connais.
J'ai lu de vous Les Guerriers du Silence, j'ai lu Wang, et j'ai lu La Fatalité de Van Gogh. Et parfois, j'ai eu l'impression, je pense qu'on peut être le seul, que ça fait partie, si ce n'est d'un même univers, au moins d'une même mythologie. Ou est-ce que c'est juste une idée de style ?
Est-ce que vous voulez dire par là qu'on écrit toujours le même livre ?
Non, justement, ce sont des histoires qui sont totalement différentes. Et parfois, j'ai l'impression que la fatalité fait partie du même univers que les guerriers du silence.
Oui, je pense que...
Est-ce que c'est juste un effet de votre style ou est-ce que c'est une volonté?
Je pense que ce n'est pas une volonté, c'est la fameuse inconscient dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on explore les mêmes zones finalement, qu'on habille de différentes façons, mais qu'on explore. J'ai l'impression qu'un auteur, c'est quelqu'un qui plonge dans ses propres préoccupations finalement, et qui les habille différemment selon ses histoires, qui propose un autre voyage, mais le fond de l'interrogation reste toujours le même, j'ai l'impression. Ouais. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Je pense que les livres, dans tout ce que je fais, il y a une sorte d'exploration des sentiers de la spiritualité libre et de sortir des conditionnements, et je pense que ça se ressent dans tous mes livres, quoi. Cette impression globale qui se dégage de tout ça.
Bonjour.
Ah, j'adore ça. Ah non, j'y avais pas pensé, mais maintenant que vous me le dites, ça doit être un truc inconscient aussi. Je sais pas pourquoi j'ai appelé Tixiotti, c'est un truc qui m'est tombé comme ça. C'est un truc intéressant, c'est les noms des personnages, surtout dans l'espèce opéra, où vous créez des univers différents, et où donc il y a à créer des noms, et j'essaie de voir comment ça pourrait évoluer dans le temps et dans l'espace, les noms, par exemple. Le personnage s'appelle Long Choupé, donc c'est une sorte de mélange de chinois, d'indien, tout ça. Que je me dis, finalement, si l'humanité s'émet dans l'espace, la majorité c'est quand même asiatique, hein, c'est indien, chinois qui représente la moitié de l'humanité. Donc probablement qu'on aurait des noms qui seraient dérivés de ces langues-là ou de ces traditions-là. Et donc, voilà. Après, la création de noms dans le space opéra, par exemple, dans la science-fiction, ça c'est un plaisir infini parce que ça permet de réfléchir. J'essaie d'éviter de faire, parce que mon éditeur, Pierre Michaud, quand il m'a donné tous mes conseils au début en disant il y a ça à travailler, il dit surtout éviter le langage schtroumpf. Ah bon, le langage schtroumpf? Oui, évidemment, le langage schtroumpf, ça veut dire créer des sortes de mots bizarres. Pour l'étrangeté du mot, c'est tout. Et donc, ce qui perd le lecteur, je me suis toujours efforcé, quand je crée du vocabulaire ou des noms, d'inventer une étymologie fictive. Ce qui permet, à mon sens, de donner la clé au lecteur inconscient du mot dans le texte, qui évite, ce qui moi m'insupporte, d'aller voir un lexique à chaque fois ce que ça veut dire. Je déteste être interrompu dans ma lecture par les lexiques. Donc, j'ai jamais mis de lexique dans mes bouquins. Et j'ai essayé de faire en sorte que le mot passe dans le contexte, même si on ne comprend pas tout à fait, mais que dans le contexte, ça passe tout à fait. Et Tixiotti, non, c'est pas un anagramme de toi, désolé. Enfin, pas consciemment.
Bonjour.
Excusez-moi, je vous entends mal. Vous m'entendez?
Oui.
La
question d'en revenir à toi, parce que j'ai pensé forcément, c'est plus par rapport au milieu céleste. Quand on dit qu'on c'est très grand, quand on va parler des êtres qui vivent dans le désert, il y a une invention de vocabulaire, mais il y a aussi une impression d'un style particulier. On commence à parler de ces êtres-là, et on les deux, qui passent d'un univers à l'autre, genre à s'exporter. Et chaque chapitre est carrément une nouvelle avec le pays. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est pas un style nouveau, mais il y a une marque.
Ouais.
Donc je disais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le style qui n'était pas un handicap à la génération de nous. Comment vous en arrivez à quand même avoir un style différent sans chercher à vraiment avoir un style qui est super.
Oui, je crois avoir saisi le sens de la question. C'est parce que mettant l'écriture au service de l'histoire, si l'histoire change, l'écriture va peut-être changer aussi un petit peu, quoi. Mais je pense que malgré tout ça, la musique de l'écriture va rester la même, mais il y aura peut-être des formes qui seront un peu différentes. Griot Céleste, et je disais tout à l'heure, c'est probablement le cycle qui m'a été le plus douloureux à écrire, parce que vous dites que ce sont des petites nouvelles avec un fil rouge, et c'est ça le grand problème, parce que d'un seul coup, ça devient un livre sur l'effacement et la perte, puisque les personnages rencontrent d'autres personnages, des griots vont sur des mondes, peuvent s'attacher émotionnellement à des personnes, et ils savent qu'ils doivent partir. Et donc,
ça crée une douleur permanente. Et le livre à écrire lui-même était une douleur permanente. Parce que ça s'effaçait en permanence, justement. Et après, pour l'écriture, les mondes sont différents, et donc forcément l'écriture suit ou s'adapte à chacun des mondes. Je pense que c'est ça, en fait.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ?
Bonjour Amélie.
Vous avez ouvert il y a quelques années un pack journalistique avec.
Ouais. C'est parce que ça parle un peu plus loin aussi, donc c'est un peu compliqué.
Est-ce que ça marche ? Ça marche.
Oui, ça marche.
Ça marche. Vous avez découvert il y a plusieurs années maintenant en pack avec les packs de nature. Et la dernière question que vous avez posée, c'est combien de temps a-t-il passé à quitter la mystique avant de trouver tous ces mots ?
Alors, je n'ai pas passé des heures à étudier la linguistique. J'ai voulu rendre l'idée d'un langage régressif, qui n'est pas tant que ça finalement, mais peu importe. Et donc, je me suis appuyé sur trois choses. Si j'ai lu L'aventure des langues en Occident de Henriette Walker, je crois. Et après, je me suis appuyé sur trois choses. Le patois vendéen, que j'ai parlé jusqu'à l'âge de 10 ans. Le patois périgourdin, parce que j'ai vécu en Périgord pendant un an. Et que mon voisin parlait le périgourdin et que j'adorais l'entendre parler périgourdin parce qu'il y avait des expressions qui me paraissaient incroyables. Et l'invention pure et simple, lexicale, enfin grammaticale et lexicale. La grammaticale, par exemple, puisque mes personnages régressaient vers l'animal, ils perdaient leur individualité, donc ils perdaient le pronom personnel aussi. Le pronom personnel ne devenait plus ne devenait plus important, donc ils passaient à la fin du verbe. Donc on disait plus je mange, mais mangeais-je. Et c'est une queue qui était probablement destinée à disparaître. Donc j'ai réfléchi tout le temps comme ça, et tout en essayant toujours, pour répondre à l'autre question aussi, de faire en sorte que le lecteur comprenne. Et ça, c'était pas évident. Mais c'était super. C'est pour ça que j'ai dit que ce livre était le plus jubilatoire à écrire, parce que c'était une vraie jubilation que de créer ce langage-là. Mais j'y ai pas passé beaucoup tant d'heures que ça, mais c'était un côté assez spontané, finalement.
Des questions ? Alors moi, j'en avais encore une, Pierre, si
vous plaît. Ouais, pas de soucis.
Il y a un grand rapport entre la nature et la technologie, au fur et à mesure de la nature du récit. Et je me demandais, depuis 20 ans, est-ce que ce rapport a évolué ?
Entre la nature et la technologie ? Alors, ce que je pense, c'est que la technologie ne résout rien. C'est ma conviction que quand on a inventé le couteau, c'était pour chasser, c'était pour tuer aussi. Et donc, la technologie ne résout rien, à mon sens. Je ne sais pas si la nature résout quelque chose, mais je pense que les questions se trouvent ailleurs. Les réponses se trouvent ailleurs que dans la réponse technologique, en tout cas. Je me méfie beaucoup de la technologie parce que ça, mais si on se prend conscience avec les ruines, voilà, et que plus on acquiert de puissance en technologie, et plus on devrait avoir une conscience élargie pour pouvoir utiliser cette technologie à bon escient, ce qu'on ne fait absolument pas. Donc, je m'interroge sur. Je pense aussi, et là je me suis souvent engueulé par les scientifiques ou autres, que la science est l'héritière de la religion, en tout de la religion du livre. Je ne reçois pas de pierre. C'est-à-dire que la religion du livre propose une réponse extérieure, c'est Dieu objet. C'est-à-dire que Dieu va vous apporter la réponse. Si vous mettez une vie de telle façon, vous aurez votre récompense plus tard. Donc vous avez une extériorité, vous avez quelque chose d'extérieur qui va vous apporter le bonheur. Dans la technologie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est l'extérieur qui va, c'est votre dernier téléphone portable qui va vous apporter le bonheur, c'est votre dernier truc qui va vous apporter le bonheur. Or, c'est faux, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne répond pas à la question fondamentale du bonheur. Donc pour moi, la réponse, elle était évidemment dans l'évolution intérieure des choses. Et là, retournant les mythologies, ce genre de choses, dans ce genre d'enseignement-là, où on pouvait apprendre sur nous-mêmes simplement. C'est nous-mêmes et le monde, la vision est purement subjective. la pensée matérialiste ne m'intéresse pas, vraiment pas, parce que je pense qu'elle est finie et qu'elle ne mène nulle part. Ça va ?
Ça va bien. Et la littérature est donc un outil de cette vision ?
Oui, oui, bien sûr, elle est mon outil principal, enfin celui que qui m'est tombé dessus, hein, que je n'ai pas vraiment choisi, je ne sais pas pourquoi ça s'est fait comme ça. Mais oui, bien sûr, c'est mon outil à moi d'explorer tous ces univers-là, quoi, et d'avancer, de proposer des choses nouvelles, d'explorer l'humanité sous toutes ses formes, les multiformes, et d'essayer pas de trouver des réponses, parce que les réponses, je ne pense pas les avoir, les réponses sont probablement individuelles, mais et au moins de proposer des pistes de réflexion.
Très bien. Et bien, sauf s'il y a...
Une dernière, ouais.
C'était une question qui est personnelle.
Excuse-moi, je vous entends pas bien. Parlez près du micro. Ouais.
C'était une question qui est un peu personnelle, parce que c'est un rapport à cette forêt. Une chose que vous entendez, vous parlez du fil, de la mélodie que vous avez dans le texte. Quand j'ai vu les gars de silence, on parle de l'entra, du son. Je vois qu'il y a une question qui va très fort rapport au son. Quel est votre rapport avec la musique, avec le son en fait?
Je pense que tout est vibratoire, absolument tout est vibratoire. Je pense que l'univers est constitué de vibrations, et même la physique le dit, parce que c'est la théorie des cordes. Les cordes, ce sont des vibrations, donc c'est extrêmement important. J'ai travaillé ce thème-là dans Les Griots Célestes, où le personnage perçoit le son des formes, et non pas les formes elles-mêmes, mais le son des formes. Je pense que chaque forme a un son, et j'adore la musique, effectivement, j'adore tout ça. Le son, pour moi, est essentiel, capital. Il est probablement moins trompeur que la vue. Le sens de l'ouïe est moins trompé et moins trompeur que celui de la vue. Je pense que la vue, c'est l'illusion et que le son, c'est la vérité. Souvent.
Très bien. Pierre ?
Ouais.
Eh bien, je te remercie.
Merci à vous. Merci de votre attention.
Pour être tôt, mais je suis d'accord à 99% avec ce que tu dis.
À combien?
Je peux pas laisser...
99. 99, c'est bien. C'est bien. C'est mieux
je ne peux pas laisser passer le 1%.
Est-ce que tu seras...